Je suis heureux de vous voir nombreux pour cette réunion qui s'insère, j'ai bien noté, dans la série des grandes questions économiques d'aujourd'hui. Et donc la question que nous nous posons ensemble est celle-ci, peut-on dépasser la croissance potentielle? Alors, c'est un brin paradoxal, parce que vous savez qu'il y a tout de même une grande crise qui nous tombe sur la tête. Hein. On veut bien reconnaître maintenant que ce sera la plus grave depuis 1929. Je pense personnellement que c'est la plus grave, point. Enfin, ça n'est pas notre sujet. Et le risque est évidemment que le cheminement de l'économie française se situe en dessous de notre croissance potentielle, que s'ouvre, comme on dit, un écart, un output gap, entre la croissance réalisée et la croissance potentielle. Mais c'est une des questions certainement qui sera abordée au cours du débat. Qu'est-ce que c'est que la croissance potentielle? La croissance potentielle, c'est la croissance de la production de biens et de services de l'économie française qui est soutenable à moyen terme sans inflation. Voilà. Alors, ici nous sommes à Lyon, capitale de la gastronomie, donc on va faire un peu de cuisine. Donc, c'est un résultat, cette production, cet output, c'est un résultat des ingrédients que vous mettez. Alors, qu'est-ce que c'est que ces ingrédients? Les facteurs de production, on a deux bien connus, le travail, le capital. Donc, le travail, évidemment, on va en parler. Il met deux richesses que d'hommes, disait Jean Bodin. Et je crois qu'on peut résumer le choc de la mondialisation par un chiffre. En quelques décennies, en très peu de temps, la population active mondiale, enfin qui travaille pour le marché mondial, a triplé. C'est le fameux triplement. Il y avait 1 milliard d'actifs. Maintenant, il y en a 3 milliards, évidemment, en Chine, en Inde. Et donc, le facteur travail va être au centre des réflexions de ce débat. Le deuxième facteur, le capital, évidemment, est aussi source de croissance, l'investissement. Pour reprendre l'exemple de la Chine investit à peu près 45% de son PIB, hein, taux d'investissement de 45%, vous avez des centaines de millions d'actifs plus un taux d'investissement de 45%. Il n'est pas étonnant que la Chine ait une forte croissance, reste que ses capacités dont elle se dote risquent peut-être d'être excessives dans la conjoncture qui est devant nous et cause de pression déflationniste. Mais ça se complique cette cuisine parce que si vous mesurez donc les inputs, vous voyez que la croissance, l'output, est supérieure. Donc il y a un troisième facteur, il y a inexpliqué, que les économistes appellent facteur résiduel, et qui est très important parce que, par exemple, dans les analyses faites par Malinvaux, Carré, Dubois sur la croissance française après la Seconde Guerre mondiale, à l'époque des Trente Glorieuses, 5 à 6 % de croissance, et bien la moitié de cette croissance était due à ce facteur résiduel. Donc nous allons en parler certainement aussi, et nous poser la question comment faire croître cette productivité globale des facteurs. Donc c'est le sujet de notre discussion, je pense que c'est comme ça qu'il faut interpréter notre question, peut-on dépasser la croissance potentielle, c'est-à-dire comment peut-on relever le taux de croissance potentielle, quels sont les leviers à utiliser, qu'est-ce que ça implique, sont d'autres des réformes de structure, j'en verrai de deux types, des réformes que j'appellerais anti-malthusiennes, qui permettent de mobiliser la ressource de travail, de relever le taux d'emploi, puisque c'est un handicap de l'économie française, qu'il y a moins de travail et donc moins de croissance. Et puis, la deuxième sorte de réforme, plus à moyen terme, des réformes que j'appellerais la schumpeterienne, qui soit axée sur la formation, la recherche, le développement, qui permettent l'innovation, et donc une croissance potentielle plus forte. Alors, pour parler de ces sujets essentiels, moi je dirais que cette table ronde est la plus passionnante de toutes ces journées. Nous avons en plus la chance d'avoir des personnes extrêmement compétentes et auxquelles je vais donner tout de suite la parole. Elles vont s'exprimer en deux temps. D'abord, des interventions d'universitaires et ou de représentants d'institutions, du ministère de l'économie en particulier. Donc, trois orateurs dans un premier temps. Et puis alors une coupure, une récréation, une surprise, je vous en dirai plus quand nous y serons. Et dans un second temps, donc, deux orateurs, j'espère que M. Leduigo nous rejoindra, qui sont plus des témoins, des acteurs, et en particulier donc un syndicaliste et un chef d'entreprise. Je commence en mettant sur la table un document. Je livre donc à votre attention un rapport sur notre sujet. C'est la saison des prix littéraires. Il est récent, il mériterait d'en avoir un. C'est un rapport du Conseil d'analyse économique, je vous le montre. Les leviers de la croissance française. Rapport très riche, d'abord très clair, qui nous introduit à cette problématique, et puis qui contient des scénarios, qui a beaucoup de chiffres, des annexes très, très complètes. Et donc, je vais à la documentation française, il est disponible. Donc, je vais commencer en ouvrant la première page et en vous citant donc une phrase qui est de la plume de Christian de Boissieu, qui est le président du Conseil d'analyse économique. Donc, je lis « Comment gagner ce fameux point de croissance ?» En relevant la croissance potentielle, déterminé avant tout par les conditions de l'offre, de 2% à 3%. Et encore, le rapport est consacré à ce défi de la croissance potentielle et aux réformes structurelles indispensables pour réaliser un tel objectif. Alors nous avons la chance à cette table d'avoir un des auteurs, ils étaient plusieurs, et Gilbert Sept donc a travaillé à élaborer ce document. Il va par conséquent prendre la parole en premier. Gilbert Sept est directeur de la recherche à la Banque de France et professeur à l'Institut de la Méditerranée. Donc je lui cède la parole. En gros, la contrainte c'est une minute par graphique. Je crois qu'il a une dizaine de graphiques. À vous.
Merci. En fait, je vais être plus rapide sur certains et plus lent sur d'autres. Alors, je vais survoler, bien évidemment, ce rapport, parce que je ne peux pas en faire un résumé fidèle en une dizaine de minutes. Et puis, je développerai plus particulièrement un point qui est abordé dans le rapport. Alors, d'abord, je voudrais dire que le constat qu'on fait, le constat de départ de ce rapport, c'est que la dynamisation de la croissance en France ne nécessite pas en premier lieu une dynamisation de la demande. Le déséquilibre entre l'offre et la demande en France, qui se traduit par un déséquilibre de notre balance des transactions courantes, montre bien que l'insuffisance première se situe plutôt du côté de l'offre compétitive, que du côté d'une insuffisance éventuelle de la demande. Alors ce qui est représenté dans ce premier graphique, c'est la partie orange de ces barres. Ça, c'est la croissance potentielle de l'économie française, c'est-à-dire croissance soutenable sans tension inflationniste sur les prochaines décennies pour les colonnes de droite. La croissance donc, dont on pourrait spontanément bénéficier, c'est la partie orange. Et puis, la partie en vert qui s'y rajoute, c'est celle qui pourrait s'y rajouter si des politiques économiques adaptées nous permettaient évidemment d'activer les leviers qui nous paraissent les plus pertinents de la dynamisation de l'offre concurrentielle en France. Alors d'abord, et ça sera le graphique sur lequel je passerai un petit peu de temps, je voudrais d'abord faire un retour en arrière. J'ai représenté ici le niveau de produit intérieur brut par habitant dans différents pays industrialisés depuis 1820 jusque en 2005. Et ce que je veux illustrer par ce graphique, c'est le fait que la politique économique a beaucoup de prise, en quelque sorte, sur la croissance, croissance relative, ici appréhendée par le niveau de richesse moyen de chaque pays comparé à celui des États-Unis. Le niveau de 100, c'est le niveau américain. Quand on est au-dessus de 100, ça veut dire qu'on a un niveau de produit intérieur brut par habitant supérieur au niveau américain. Quand on est en dessous de 100, ça veut dire qu'on est en dessous des États-Unis. Alors la première chose qu'on voit, c'est la barre qui clignote, c'est que les positions de leadership ne sont pas éternelles. Au XIXe siècle et même au début du XXe siècle, par exemple ici, le pays leader en termes de produit intérieur brut par habitant, c'était parmi ces pays le Royaume-Uni. D'autres pays étaient dans une position très avantageuse, comme par exemple la Nouvelle-Zélande ou en Europe les Pays-Bas qui ne sont pas représentés dans ce graphique. Mais ceci pour vous dire qu'on n'est pas leader éternellement, et si les États-Unis sont évidemment leaders en termes de PIB par habitant parmi les pays industrialisés aujourd'hui, c'est une situation dont on peut se rapprocher et peut-être à très long terme qu'on peut éventuellement dépasser. Et c'est évidemment l'adaptation des politiques économiques qui peut définir les renversements de hiérarchie dans ces positions de leadership. Ce que vous voyez aussi, ce qui est illustré par le Japon, la barre jaune qui clignote, c'est qu'il y a des moments, des phases historiques avec des rattrapages phénoménaux. Et le Japon a connu un rattrapage incroyable de sa position relative par rapport aux États-Unis entre dans l'après-deuxième guerre mondiale jusqu'au début des années 1990. Vous voyez que le Japon partait d'un niveau de produit intérieur brut par habitant de 20% simplement du niveau américain en 1950, et que maintenant il est à 85% du niveau, enfin il a été à 85% du niveau américain en 1990, il est retombé depuis. Donc on peut, sur des espaces assez brefs de temps, connaître des processus de rattrapage rapides, très forts. Néanmoins, le Japon a arrêté ce processus de rattrapage, et même le Japon maintenant se paupérise de façon relative par rapport aux États-Unis. Vous voyez que sa position relative s'est dégradée. Ce qui est bien représenté aussi par un pays comme l'Irlande. Et là, je voudrais comparer deux petits pays qui font partie de l'Union européenne et de la zone euro, l'Irlande en vert et le Portugal en orange. Vous voyez que c'est deux pays d'une taille relativement comparable. Et vous avez l'un de ces pays, donc dans le même espace économique, l'Union européenne, qui partage la même monnaie, qui sont tous les deux dans la zone euro. Eh bien, vous avez l'un de ces pays qui, entre 1990 et 2005, a connu un phénomène de rattrapage phénoménal, enfin incroyable, surprenant, à un rythme très très important, et un autre pays, le Portugal, qui stagne en termes de rattrapage, à un niveau qui n'arrive pas à rattraper, qui stagne à un niveau de produit intérieur brut par habitant d'environ la moitié du niveau américain. Ce qui est illustré ici, c'est qu'il ne suffit pas d'être dans la même zone économique, il ne suffit pas de partager la même monnaie pour être tiré vers le haut. La politique économique a beaucoup de latitude pour influencer les trajectoires de pays, et parfois dans des intervalles de temps assez limités, ce qui est bien montré par l'exemple irlandais, au regard par contre du mauvais exemple, si j'ose dire, du Portugal. Alors la situation de la France, voilà, c'est la dernière barre. La situation de la France est celle d'un pays qui était en position relativement avantageuse, vous voyez, au début du XIXe siècle, qui a connu ensuite une paupérisation relative assez forte, une phase de rattrapage importante dans l'après-deuxième guerre mondiale jusqu'au premier choc pétrolier, et qui maintenant stagne, voire régresse, en termes relatifs, vis-à-vis des États-Unis. Et donc il y a le rattrapage, en quelque sorte, du niveau américain nous offrirait des perspectives d'enrichissement moyen en termes de niveau de vie par habitant considérable. Je vais être très bref là-dessus pour écarter aussi une idée qu'il ne faut pas mettre en avant. Donc dans notre rapport, on a fortement attaqué l'idée qui consisterait à dire « Regardez, si on observe les chiffres au premier regard, la France est un pays dans lequel les niveaux de productivité horaire sont très élevés, supérieurs même au niveau américain, et où par contre la mobilisation de la population en âge de travailler est beaucoup plus faible qu'aux États-Unis, les taux d'emploi sont plus faibles, la durée du travail est plus faible. » Et donc, on serait très productif, mais on mobiliserait cette plus forte productivité davantage vers les loisirs qu'aux États-Unis, et même au-delà de notre écart de productivité, puisqu'on a un niveau de produit intérieur brut par habitant inférieur à celui des États-Unis pour environ un quart. Eh bien, ce raisonnement nous paraît erroné. Erroné pourquoi ? Eh bien, parce que les niveaux de productivité dépendent eux-mêmes de la mobilisation de la population de l'âge travaillé. C'est évidemment les personnes les plus productives qui sont les premières en emploi, d'une part. Et puis, deuxièmement, les heures de travail connaissent des rendements décroissants. Ce qui est représenté dans les deux bâtons de la gauche de ce graphique. Premier bâton, c'est la situation française. Et le bâton le plus à gauche, c'est ce qui est observé. Plus de productivité, on est au-dessus des États-Unis, c'est la partie verte du bâton. La partie orange illustre la moindre mobilisation de la population en âge de travailler. Eh bien, le bâton qui est juste à côté, les bâtons qui sont juste à côté, vous montrent la situation qu'on connaîtrait en France, d'après nos évaluations, si on mobilisait la population en âge de travailler autant qu'aux États-Unis. On aurait un produit intérieur brut par habitant qui resterait inférieur aux États-Unis parce qu'entre autres, notre productivité y est structurellement inférieure, mais ce qui est caché ou gommé par le fait qu'on mobilise moins la population en âge de travail. Alors dans le rapport du Conseil d'analyse économique qui a été évoqué tout à l'heure, on évoque une quantité de leviers pour dynamiser la croissance française et le produit intérieur brut par habitant. Du côté du produit intérieur brut par habitant, c'est évidemment la mobilisation de la population d'âge travaillé, le taux d'emploi et la durée du travail. Du côté de la durée du travail, on ne défend pas l'idée que la durée du travail devrait être allongée, on défend simplement l'idée que l'espace des choix individuels devrait être un petit peu plus ouvert qu'il ne l'est au jour d'aujourd'hui. Du côté du taux d'emploi, par contre, on avance par différents exemples et donc différents leviers d'action le fait que des aspects réglementaires et des mauvaises incitations amènent beaucoup d'éléments de la population en âge de travailler à se retirer du marché du travail ou à y être peu présents. Enfin, du côté de la productivité, on signale de très nombreux leviers d'action public pour dynamiser la croissance française soutenable. Et ces leviers d'action, c'est bien sûr l'éducation. On a un déficit de main-d'œuvre très qualifié par rapport aux pays les plus élevés en termes de PIB par habitant et donc par rapport aux États-Unis. Et puis, on pâtit de rigidité de marché, tant sur le marché des produits que sur le marché du travail et en termes de financement des entreprises. Alors, je ne vais pas détailler, bien évidemment, tous ces leviers, ça prendrait beaucoup trop de temps. Ce qui ressort de ce rapport, c'est que on pourrait, en France, en tout cas, avoir des perspectives de rattrapage au moins partiel de la situation américaine très, 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 très fort si on activait ces leviers d'action. Alors, je voudrais illustrer les conséquences de notre déficit d'éducation, main-d'œuvre très qualifiée, d'une part, et les conséquences des rigidités de marché par un exemple très simple, celui du bénéfice que l'on peut faire de certaines révolutions technologiques. Et là, je prends comme exemple de révolution technologique la révolution qui est portée par les technologies de l'information et de la communication. Ce qui est représenté sur ces trois graphiques, en ordonnée de ces trois graphiques, il y a le niveau de diffusion dans l'ensemble de l'économie des technologies de l'information et de la communication. Et en abscisse, vous avez dans le graphique du haut à gauche la proportion de diplômés du supérieur. Et vous voyez que vous avez une relation croissante. Plus il y a de diplômés du supérieur dans une économie, plus toutes choses égales par ailleurs, les technologies de l'information et de la communication sont diffusées. Et puis dans les deux graphiques du bas, vous avez toujours la diffusion des technologies de l'information et de la communication en ordonnée. Et en abscisse, vous avez les rigidités sur le marché du travail pour le graphique de gauche, les rigidités sur le marché des biens dans le graphique de droite, qui illustre le fait que plus les rigidités sont importantes et moins les technologies de l'information et de la communication sont diffusées. Alors, ce qui est illustré ici, c'est que le bénéfice même de révolutions technologiques auxquelles tout le monde peut avoir droit, en quelque sorte, auxquelles tout le monde peut théoriquement accéder, ce bénéfice est plus faible dans les pays dans lesquels la population d'âge de travailler est moins éduquée et dans lesquels les rigidités de marché sur le marché du travail et sur le marché des biens sont plus importantes. Alors, cet exemple vous est illustré également par ce slide. Dans le graphique du haut, vous avez le niveau de diffusion moyens des technologies de l'information et de la communication. La ligne rouge, c'est les États-Unis. Vous voyez que dans tous les pays, y compris aux États-Unis, cette diffusion est stoppée. Maintenant, on est dans le renouvellement, en quelque sorte, de ce qui est déjà installé en termes de technologies de l'information et de la communication. Le problème pour un pays comme la France, qui est ici la grosse ligne en bleu foncé, le problème pour un pays comme la France, comme pour d'autres pays, c'est qu'on connaît aussi une stabilisation maintenant de la diffusion des technologies de l'information et de la communication, mais à un niveau très inférieur à celui des États-Unis. Et donc, il y a des perspectives, il y a des potentialités de gains de productivité dont on ne bénéficie pas complètement en France, et donc des potentialités d'amélioration de notre niveau de vie économique dont on ne bénéficie pas en France. Le graphique du bas vous donne un résumé du résultat d'une étude que je viens de boucler avec Jimmy Lopez, dans lequel on essaye d'expliquer d'où vient ce déficit de diffusion des technologies d'information et de communication. Et ce qui résulte de notre travail économétrique, c'est pour la France comme pour d'autres pays, la France donc est indiquée ici en rouge, c'est le troisième bâton à partir de la gauche, c'est que ce retard de diffusion des technologies d'information et de communication s'explique pour une grosse moitié par un déficit d'enseignement, d'éducation supérieure, en quelque sorte, dans la population en âge de travailler. Et puis, la partie verte, c'est les rigidités de marché, tant sur le marché des biens que sur le marché du travail. Je ne peux pas être plus long, excusez-moi, parce que le temps est compté. Et je voudrais, par ailleurs, pour finir, ce sera les deux derniers slides les trois derniers slides que je présenterai ici, illustrer aussi certaines difficultés qu'on peut connaître dans notre pays, en France, pour envisager des réformes sur le marché du travail. Ces difficultés qu'on peut connaître en France, c'est les carences d'acteurs en termes de dialogue social. Tout le monde est bien conscient de l'hyperdilatation, de l'omniprésence du droit réglementaire sur le marché du travail et de la faiblesse du droit conventionnel, de la faiblesse de la négociation collective comparée. Si on compare la France à d'autres pays, c'est illustré sur le graphique du haut. Vous voyez ce déficit d'acteurs. La France, c'est parmi les pays de l'OCDE celui dans lequel le taux de syndicalisation est le plus faible. Comment maintenant ouvrir l'espace du droit conventionnel? Comment donner plus de liberté aux acteurs partenaires sociaux pour décider et réduire le champ du droit réglementaire quand on a une telle faiblesse de la syndicalisation en France? Bien, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il y a cette faiblesse. Et quand on interroge les salariés sur les raisons de leur non-syndicalisation, la première réponse qu'ils font dans notre pays, c'est, vous voyez, c'est les chiffres indiqués en dessous du graphique, c'est la peur des représailles. Donc ça indique, ça souligne les difficultés des réformes sur le marché du travail en France. Le climat social est tel que le manque d'acteurs pour porter en quelque sorte les réformes, pour vivre les réformes d'une façon équilibrée sur le marché du travail, eh bien ce manque d'acteurs s'explique en partie par un climat social qui n'est pas très sain et qui se caractérise entre autres par une non-syndicalisation expliquée elle-même par une peur des représailles. Les chiffres, les deux dernières lignes sur la partie à gauche, vous indique sur la base de différentes enquêtes aussi à quel point notre classement, le classement de notre pays en termes de qualité des relations sociales est très très négatif, quelle que soit la source d'enquête. Autre difficulté des réformes, l'économie de marché a très très mauvaise presse en France. C'est montré par le graphique en haut ici. Quand on interroge les personnes sur ce qu'ils pensent de l'économie de marché, ils voient en France, dans l'économie de marché, quelque chose de dangereux, de risqué, beaucoup plus que dans d'autres pays, avec la Belgique parmi les pays industrialisés qui nous dépasse dans les dangers qui sont ressentis par les personnes enquêtées concernant l'économie de marché. Donc il y a une difficulté évidemment de réforme qui est liée à ça. L'élément positif, parce que je ne veux pas être que sur le négatif ici, est illustré par le tableau de ce slide. Le travail par contre a très très bonne presse et la France est parmi l'ensemble des pays industrialisés celui dans lequel la valeur travail est presque la plus élevée. Vous voyez que quand on interroge les gens sur l'importance qu'a pour eux le travail, eh bien la France est le premier pays parmi tous les pays dans lesquels ces enquêtes ont été réalisées. Et la valeur travail aussi paraît très très importante à transmettre à ses enfants en France, beaucoup plus que dans d'autres pays industrialisés. Alors pour finir, je voudrais illustrer les potentialités qu'offrirait selon nous, résultant du travail qui a été fait par Philippe Aguillon, Jean Pisani-Ferry, Eli Cohen et moi-même dans le cadre de ce rapport CAE, les potentialités qu'offriraient des politiques économiques bien ciblées visant à dynamiser la croissance à moyen-long terme. Mais on retrouve le graphique du début, simplement on a décomposé ici les différentes composantes de ce gain de croissance, d'un demi-point à un point par an en moyenne. La partie en vert, c'est la dynamisation de l'enseignement supérieur, l'augmentation, de la qualification de la population de l'âge de travailler. Eh bien, c'est un investissement à très long terme, parce que des dépenses dans ce domaine-là, un effort accru dans ce domaine-là, a un effet qui s'incrémente très très progressivement. Il y a un effet flux stock, évidemment, lié à l'inertie des évolutions dans l'ensemble d'une population. La dynamisation, de la population en âge de travailler, surtout du côté des taux d'emploi, c'est la partie en bleu. C'est au contraire quelque chose sur lequel on a des effets, on peut avoir des effets relativement rapides, mais qui finissent par s'éteindre une fois qu'on a atteint un bon niveau de mobilisation de la population en âge de travailler. Et puis la partie en noir est quelque chose d'intermédiaire. On a des effets qui peuvent être relativement rapides, mais qui n'atteignent pas l'importance et la dimension de ce qu'on peut obtenir par l'amélioration de la formation de la main-d'œuvre. Et cette partie en noir, ici, c'est ce qui peut être obtenu par des réformes bien ciblées sur le marché des biens et sur le marché du travail.
Eh bien, merci beaucoup, Gilles Bersette. Pour cet exposé détaillé et illustré, plus. Et maintenant, donc, les cartes sont sur la table. Et c'est le professeur de Boissieu qui va s'exprimer. Il préside le Conseil d'analyse économique. Et donc, il a supervisé ce rapport. Je crois que ce serait bien d'avoir sa propre lecture de ce travail, mais j'ajouterai aussi la question que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est si dans la phase qui s'ouvre devant nous, nous nous promenons en dessous du potentiel pendant malheureusement un bout de temps, est-ce que ça n'aura pas comme effet de contracter ce potentiel de croissance et par conséquent les chiffres que nous venons de voir, passer de 2 à près de 3 en 2010 ou 12 et de se maintenir à cette hauteur, est-ce que c'est à notre portée?
Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de son invitation à Pascal Lemaire et à toute l'équipe qui a organisé ces journées de Lyon. Moi, je trouve ça important que ces journées aient lieu, je trouve ça important qu'elles aient lieu, j'allais dire pour une fois, pas à Paris. Je dis ça d'autant plus que, malheureusement, je vais devoir vous quitter avant la fin de la table ronde parce que je retourne à Paris pour des journées de l'entrepreneur qui sont organisées par l'AFIC, l'Association française du capital investissement. Donc voilà, mais moi je salue cette initiative. Peut-être un mot sur le Conseil d'analyse économique. Rassurez-vous, ce n'est pas pour faire du marketing, c'est plutôt pour vous dire, vous dire ce que c'est que le Conseil d'analyse économique. Le Conseil d'analyse économique a été créé par M. Jospin. Et quand j'ai l'occasion de lui rendre cet hommage-là, je le fais. Je le fais à nouveau devant vous. Donc, en juillet 97, un mois après l'arrivée du gouvernement Jospin, sous l'impulsion de son conseiller économique, qui était le premier président du CE, Pierre-Alain Muet, qui est maintenant député de Lyon, manière aussi de rendre hommage à Lyon, à nouveau, Pierre-Alain Muet dit à Lionel Jospin, on vit dans un pays, la France, où finalement les économistes servent à quoi? Enfin, je caricature, mais c'est un peu ça l'idée. Et, au fond, les énarques se prétendent tous économistes, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, Sciences Po, l'ENA ou autre chose. Et donc, Jospin crée le CAE en juillet 97, à l'époque j'étais membre, avec certains qui sont autour de la table déjà, ou dans la salle, et puis je le préside depuis quelques années. Et depuis le début, depuis 1997, le CAE est là pour faire quoi? Il est là pour éclairer les choix économiques du gouvernement. C'est une instance pluraliste sur le plan politique. Et ça, c'est important, parce que c'est pas... Sous la droite, il n'y a pas que des économistes de droite, et sous la gauche, il n'y a pas que des économistes de gauche au Conseil d'analyse économique. C'est la pluralité des économistes autour de la table qui, à mon avis, est très importante pour la crédibilité de l'exercice. Bon, donc, nous sommes pluralistes, il y a une trentaine d'économistes qui en font partie avec renouvellement tous les deux ans, et il y a du renouvellement. On n'est pas là à vie, même si on est un certain nombre à être là depuis le début. Et éclairer les choix économiques du gouvernement, exemple ce rapport, c'est-à-dire que les économistes sont toute indépendance, on peut le dire, Gilbert, scientifique. Et c'est pas le président qui fait de la censure, enfin, je crois pas trop. Donc les économistes du CAE se voient confier un sujet à traiter à la demande du gouvernement. Il faut un rapport avec des recommandations, puis ensuite le gouvernement, il prend ou il prend pas. Il fait son marché dans les rapports du Conseil d'analyse économique. Bon, et là, il y a un certain nombre de propositions qui ont fait l'objet de décisions de politique publique. Et je dirais, ce rapport, dont vous avez entendu la présentation par Jules Berset, il a été important non seulement parce qu'il a pu inspirer telle ou telle mesure. Tout le rapport n'a pas été transformé en politique économique, mais il y a des mesures qui ont inspiré le gouvernement. Ce rapport-là, à 4, dont Jules Berset, il a été aussi important parce qu'il a pas mal inspiré le rapport de la commission Attali. Si vous regardez la séquence, ce rapport a été présenté quelques mois avant la commission Attali. Avant. Mais le rapport conçu avant, bien sûr qu'il y a eu plusieurs rapports. Il y a des rapports, malheureusement, qui restent un peu trop dans les tiroirs. Et je considère que le rapport conçu est resté un peu trop dans le tiroir. Bon, ce rapport-là qui vous a été présenté, ainsi que le rapport Attali, ne sont pas restés dans les tiroirs. Alors je dis ça parce que dans le débat public en France, certains d'entre vous ont pu tenir peut-être du rapport de la commission Attali uniquement le débat sur les taxis à Paris et la question de la suppression possible des départements. Et si vous relisez ou si vous lisez le rapport de la commission Attali, il y a des choses beaucoup plus intéressantes que la question des taxis à Paris ou le problème de l'avenir du département, même si c'est des sujets qu'on peut considérer comme importants quand on s'y intéresse. Et le rapport Attali sur les recommandations, beaucoup de recommandations concernant la politique d'enseignement supérieur, la R&D et d'autres sujets, a prolongé, a repris les rapports du rapport, dans les recommandations du rapport du CAE qui vient de vous être présenté. Bon, maintenant je reviens pour démarrer mes quelques remarques sur la question que posait Philippe Le Fournier. Gilbert l'a rappelé, au fond, on estimait avant la crise financière, disons avant l'accélération de la crise financière depuis cet automne, on estimait, disons, en 2007, que la croissance potentielle de la France était effectivement autour de 2% par an, et que ça correspondait à peu près à la croissance potentielle moyenne de la zone euro. Donc, la France, par rapport à la zone euro, aujourd'hui, zone euro à 15 pays, le 16e rentre au 1er janvier, c'est la Slovaquie, mais aujourd'hui, on raisonne sur l'euro à 15 pays, la zone euro à 15 pays, vous avez une croissance potentielle moyenne à 2% par an, et la France, de ce côté-là, n'est ni le bon élève de la classe, ni le mauvais, elle est dans la moyenne de la zone euro. Bon, et quand on disait, dans le rapport Attali ou dans ce rapport, il faut gagner un point, c'était l'idée de faire passer la croissance potentielle de 2 à 3 par an, et derrière, de faire passer la croissance effective. Parce que relever la croissance potentielle, ça n'est intéressant que si derrière, la croissance effective suit. Par rapport à l'emploi, par rapport à la lutte contre le chômage, ce qui compte, c'est la croissance effective. Et la croissance potentielle, elle nous aide dans la mesure où c'est un peu le point d'équilibre autour duquel tourne ou fluctue la croissance effective. C'est ça qui est important. Relever la croissance potentielle pour relever le point d'ancrage autour duquel tourne en plus ou en moins, c'est la notion d'output gap qu'évoquait notre président Philippe Le Fournier, la croissance effective. Alors, là, dans le débat actuel, on est un peu dans... Ça reste toujours très important d'essayer de gagner un point sur la croissance potentielle et sur la croissance effective. Mais c'est vrai que le débat actuel, en pleine crise financière qui se traduit par une crise économique, le débat, c'est de freiner la chute de la croissance effective et de freiner derrière la chute de la croissance potentielle. C'est la question que tu posais, me semble, Philippe. Parce que, et ça je crois que c'est important à rappeler dans le débat, la croissance potentielle, elle n'est pas variable dans le temps. Ce point d'ancrage autour duquel tourne la croissance effective, ce point d'ancrage, il bouge lui-même, il est mobile. Et donc, ce qu'on a constaté dans tous les pays, c'est que dans un pays où la croissance s'accélère, la croissance effective s'accélère, la croissance potentielle, souvent, est revue à la hausse, et dans un pays où la croissance ralentit, baisse, voire vous avez une récession, la croissance potentielle risque de suivre dans le même sens. Donc, le débat pour nous en France, il y a un an et demi, on se posait la question d'essayer de gagner un point sur la croissance potentielle passée de 2 à 3. Le débat qui se pose pour les mois qui viennent, c'est d'essayer d'éviter de perdre un point sur la croissance potentielle, par-delà, effectivement, à cause de ce qu'on vit, c'est-à-dire une croissance effective proche de zéro. La France a échappé pour l'instant à la récession, d'après les derniers chiffres que vous connaissez, mais je veux dire, les États-Unis le sont probablement, ça sera confirmé dès qu'on aura les chiffres. L'Allemagne est en récession, un certain nombre de pays européens sont techniquement en récession. Donc, ce débat sur le caractère endogène, c'est-à-dire le fait que la croissance potentielle dépend bien sûr de tous les facteurs qu'évoquait Gilbert, mais pas à travers les facteurs qu'évoquait Gilbert, que la croissance potentielle puisse être révisée à la lumière de la croissance effective, c'est un élément très important du débat. Et je pense que ça rejoint ce problème de non-indépendance entre les deux, entre la croissance effective et la croissance potentielle, non-indépendance. On le comprend bien quand on regarde, par exemple, l'investissement. L'investissement, si vous l'envisagez dans l'optique keynésienne, l'investissement, à court terme, c'est une composante de la demande. Bon. Et donc, à court terme, aujourd'hui, en France, les entreprises investissent moins. Et ça pèse, et ça va peser sur les chiffres de la croissance effective dans les mois qui viennent. C'est l'aspect court terme, et c'est l'aspect keynésien, l'investissement comme composante de la demande finale. Et puis, l'investissement, c'est aussi un déterminant de l'offre. Bon, à travers ce que vous connaissez en économie, la fonction de production, les facteurs de production, etc. Et c'est surtout le fait que l'investissement, c'est non seulement c'est un déterminant de l'offre, parce que c'est par l'investissement que s'introduit, en règle générale, l'innovation, le progrès technique, etc. L'innovation ne tombe pas du ciel. L'innovation, elle est introduite par les entreprises à travers des décisions d'investissement. Et donc là, le ralentissement, voire la chute de l'investissement, va peser à la fois sur la croissance effective et sur la croissance potentielle. Sur la croissance effective par un effet keynésien de court terme, et sur la croissance potentielle par un effet, j'allais dire, moins keynésien, puisque c'est la politique de l'offre. Politique de l'offre, on retrouve Schumpeter que tu évoquais tout à l'heure dans ton intro, etc. Bien, on retrouve le même débat sur la liaison entre ce qu'on appelle le chômage naturel, j'aime pas beaucoup cette expression parce que ça fait un peu choquant de parler de chômage naturel, l'expression n'est pas de bois, elle est de Milton Friedman au départ, ce qu'on appelle le chômage naturel et le chômage effectif. C'est-à-dire que, plutôt que de parler de taux de chômage naturel, parlons de taux de chômage considéré comme le niveau de plein emploi. Le taux de chômage considéré comme le niveau de plein emploi, c'est jamais 0% de chômage. Il y a toujours un volant de chômage frictionnel dans une économie. Mais si vous regardez ce qui s'est passé en France depuis 2-3 ans, en tout cas jusqu'à l'été 2008, avant que le taux de chômage commence à remonter, jusqu'à l'été 2008, le taux de chômage avait baissé pendant 2-3 ans. Et on était revenu à un taux de chômage global proche de 7%. Bon, et quand le taux de chômage, avec la baisse du taux de chômage effectif ou constaté, on pouvait dire que dans le même temps, le taux de chômage de plein emploi baissait. Donc, c'est exactement la même idée, disons, sur le fait que ces deux repères, croissance effective et croissance potentielle, ne sont pas indépendants. Deuxième remarque, quelques mots sur les politiques de réforme indiquées. Donc, moi, je suis totalement d'accord avec la liste donnée dans le rapport je ne vais pas la reprendre. La quantité de travail sur le cycle de vie. Donc ce n'est pas uniquement le débat sur les 35 heures, c'est le débat sur l'âge de la retraite, c'est le débat sur le taux d'emploi des jeunes,